Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. Dans une poignée de secondes, nous allons recevoir Zoé Séverin à l'affiche de votre série Ici tout commence dans le rôle de Jasmine Kasmi. Elle est également à l'affiche du court-métrage La Fuite en compétition Nikon Film Festival. On en parle avec elle dans un instant. Et Pierre-Baptiste Mazoyer sera également avec nous en exclu podcast aujourd'hui, le réalisateur du film. On va avoir le plaisir dans nos coups de cœur télé cette semaine de recevoir Bruno Solo pour le grand final de votre saga, tout cela je te le donnerai sur France 2. On va recevoir également Armel Deutsch aujourd'hui à l'affiche de L'Art du Crime qui sera diffusé ce soir à 21h10 sur France 2. Mayra Schmitt également de retour dans Léo Mattei pour cette 11e saison inédite sera également notre invité. Et puis on va avoir également le grand bonheur de recevoir Chloé Chaudeuil et Arthur Dupont pour l'épisode inédit Mortel Karma des petits meurtres d'Agatha Christie qui sera diffusé vendredi soir. Et puis en fin d'émission, on parlera spectacle, on parlera musique avec deux de vos comédiens préférés de vos séries quotidiennes. Kevin Lévy et Aurore Delplace seront nos invités.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Ici tout commence cette semaine avec Zoé Séverin qui nous a rejoint. Bonjour Zoé.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Le bazar a commencé et le feu aux poudres a été mis avec cette histoire de Saint-Valentin autour de Jasmine dans Ici tout commence. Mais il y a plein de choses qui arrivent pour toi, ma chère Zoé. Et on va parler également du Nikon Film Festival, puisque tu es très concernée par un projet qui s'appelle La Fuite, dont on va parler aussi dans quelques instants, puisque tu as coécrit notamment le scénario aux côtés du réalisateur Pierre-Baptiste Mazoyer. On va en parler dans un instant. Tout d'abord, je crois que Jasmine va être un peu au cœur de ces intrigues pour les semaines à venir, j'ai l'impression, pour notre plus grand bonheur.
Eh ben, c'est une bonne impression. Ouais, exactement, Jasmine va être au cœur d'une intrigue qui va venir un peu chambouler sa vie sentimentale et notamment en lien avec un personnage qui va venir chambouler d'autres vies aussi. Donc ouais, ça risque d'être bouleversant, voire renversant.
Ouais. Cette fameuse sommelière qui vient d'arriver là dans les épisodes qu'on a vus la semaine dernière, j'ai l'impression.
Voilà, exactement.
Ouais. On va s'en méfier de celle-là. Et à mon avis, il va falloir que Thibaut s'en méfie un peu aussi. Ça va mettre un peu le bazar dans le couple. Déjà que c'était un peu compliqué avec ce triangle un peu amoureux hein, entre Jim, Thibaut et Jasmine hein, dans la série.
Oui, c'est vrai que c'est dur à gérer pour Jasmine, en tout cas de savoir où donner de la tête. Est-ce qu'on écoute le cœur? Est-ce qu'on écoute la raison? Donc je pense que cette arche sera en tout cas déliée sous ce joli bazar.
Ouais, mais j'ai l'impression que Jasmine, c'est quand même une fille de cœur avant tout.
Ah bah ça, je te laisse le découvrir.
Ouais, toujours autant de plaisir à jouer. Je sais que tu t'es absenté un petit peu justement des tournages à l'automne pour te consacrer à d'autres projets.
Bah oui, à chaque fois, de toute façon, qu'on revient dans l'enceinte du château, c'est des retrouvailles avec la famille, avec les décors, avec le jeu, c'est toujours un vrai plaisir. La pause a fait du bien, mais en même temps, on avait hâte de revenir, quoi.
Bon, on va suivre pendant ces deux mois qui arrivent, là. Jasmine va être un peu au cœur de tout ça, évidemment. Donc, on va pouvoir te voir, voilà, dans quasiment tous les épisodes, hein, là, dans le mois de février-mars, là.
Ouais, il me semble que ce sera ça. Ouais, elle est pas mal présente. Elle va être à la fois en soutien, au cœur de l'intrigue. Enfin, elle a une belle partition à jouer, on va dire.
Alors, ma chère Zoé, tu es également co-autrice, hein, puisque tu as co-signé le scénario d'un film qui s'appelle La Fuite. Juste avant d'en parler, on rappelle un peu ce qu'est le Nikon Film Festival. Justement, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots déjà?
Ouais, bien sûr, c'est un festival qui est organisé tous les ans par Nikon, comme son titre l'indique. Et en fait, tous les ans, il crée un festival où n'importe qui peut participer, qu'on soit du métier ou qu'on ne soit pas. Et en fait, il y a un temps imposé qui est de 2 minutes 20. Avec un thème. Et donc cette année, le thème, c'était le feu. Chacun des participants doit faire un petit court-métrage donc de 2 minutes 20 autour du thème du feu. Et ensuite, on suit toute une période où les gens peuvent visionner tous les courts-métrages, voter pour leur coup de cœur, commenter, partager. Et en fait, fin avril, il y aura une remise de prix pour savoir qui sont les gagnants de la meilleure réalisation, de la meilleure comédienne, du meilleur comédien, enfin un peu comme les Césars, mais version Nikon, quoi.
Alors, tu partages l'affiche avec Manon Roger et Jacques Mazoyer. Vous êtes trois, évidemment, 2 minutes 20, tout va très vite dans un temps imposé. Comment on fait pour justement écrire, essayer d'équilibrer, de faire des choix aussi scénaristiques pour enlever des choses peut-être qu'on avait envie d'absolument mettre pour rentrer dans ce cadre?
Oui, c'est vrai que c'est un vrai exercice d'écrire une histoire sur 2 minutes 20, comme ça sur le papier, ça peut paraître simple, mais en fait, comme tu dis, quand on a envie de raconter des choses, eh ben, il faut savoir faire des choix, parce que 2 minutes 20, ça peut être très court. Donc oui, on est obligé de centrer, on va dire, l'histoire sur une intention, sur une énergie, et c'était un super exercice que de pouvoir coécrire avec Pierre-Baptiste Mazoyer.
Alors, il vous suffit simplement d'aller sur le site festivalnikon.fr et vous allez pouvoir taper dans la barre de recherche La Fuite. Alors, vous pouvez vous inscrire, hein, évidemment, sur ce site avec votre mail, un mot de passe pour pouvoir avoir un accès privilégié, pouvoir découvrir aussi tous les films qui sont en compétition. Il y en a, je crois, enfin, c'est un truc de fou, plus de 2000. Et donc, il vous suffit de taper La Fuite. Voilà. Et on va faire un appel au soutien, puisque une fois que vous l'aurez regardé, vous avez une petite barre dessous, il y a marqué « Soutenez ce film ». Il suffit de cliquer dessus et du coup, eh bien, ce film sera soutenu par vous et vous aurez la possibilité effectivement de peut-être changer son destin, ce film, et d'être primé. Vous avez jusqu'au 10 avril, hein, c'est ça?
Exactement, c'est ça la date.
Bon, alors là, évidemment, on va lancer cet appel au vote dès maintenant. Ça s'appelle donc La Fuite. Pierre-Baptiste Mazoyer, le réalisateur, vous connaissiez tous les deux pour le coup avant?
Ouais, on est très très amis dans la vie, on avait déjà bossé ensemble sur plusieurs choses, il est aussi photographe à côté et romancier, et en fait on a bossé sur plusieurs projets, et un jour on a fait un shooting photo dans un champ de coquelicots, et c'était justement avec Manon Roger, et en fait c'est là que l'idée nous est venue d'essayer de donner vie à ces personnages, de leur inventer une histoire, de savoir pourquoi est-ce qu'elles courent. Et donc quand on a vu le Nikon Film Festival, j'ai directement rappelé mon pote et je lui ai dit « Mais viens, on écrit ensemble un court-métrage. » Et en fait, le shooting nous est revenu en tête et on a posé une histoire sur les images qu'on avait faites ensemble.
Et le tout a été tourné dans les Deux-Sèvres.
Exactement, ouais. Dans la ville natale de Pierre-Baptiste Mazoyer.
Ah ouais, c'est génial. Ça s'est été tourné en combien de temps? 2 minutes 20 avec évidemment des petits moyens que peuvent représenter effectivement des films comme ça. Vous avez mis combien de temps pour tourner?
Alors, on a mis 2 jours de tournage. Mais ouais, ça a été 2 journées très intensives, mi-décembre. Donc, on a tourné pieds nus dans un froid de canard aberrant. Du coup, on a tourné sur 2 jours, la journée du samedi et la matinée du dimanche. On s'est levé à 5 heures, je crois. Donc voilà, c'était un tournage intensif, mais hyper agréable parce que c'était un projet d'amis, un projet collectif dans une ville qui est quand même charmante. C'est très agréable de tourner ce court-métrage.
On y retrouve l'histoire de 2 jeunes femmes, hein, du coup, donc incarnées par toi et Manon Roger, qui vont s'échapper d'un asile et qui vont être traquées par un homme et son chien. Le feu va prendre une importance, évidemment, vous allez le voir en allant voir le film sur le site festivalnikon.fr, évidemment, puisque c'est le thème du feu. C'est à la fois un peu angoissant, il y a une image assez foncée, justement, sur le film. Il y a une atmosphère, et alors, physiquement, tu es quasiment méconnaissable, hein, niveau maquillage. Ça a envoyé du lourd, là.
Ah oui, c'est sûr qu'on était loin de la Jasmine qu'on peut connaître.
Ben, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant pour une comédienne.
Ah oui, bah moi j'ai adoré me mettre dans la peau d'un personnage qui est vraiment très très loin de celui de Jasmine. C'est vraiment à l'opposé, quoi. C'est une nana qui est un peu possédée d'elle-même, qui est fatiguée, qui est sous médicaments, qui est dans un asile. Enfin, il y a plein de choses qui lui tombent dessus au sens propre, au sens figuré. Et du coup, c'était intéressant aussi de jouer justement sur le maquillage et sur ce qu'elle renvoie et ce truc un peu à moitié fantôme. Mais ouais, c'est super chouette à faire.
Ouais, j'allais presque dire un brin fantomatique. Ouais, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'appelle La Fuite. Si vous voulez aller le voir, eh bien, le film est en ligne non seulement sur YouTube et puis également sur le site festivalnikon.fr. On vous invite à aller, en tout cas, soutenir ce film coécrit notamment par Zoé. Évidemment, vous avez grand plaisir, je sais, à retrouver tous les soirs du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1 dans Ici. Si tout commence. Dernière petite question, est-ce que peut-être que ce projet sur 2 minutes 20, c'est peut-être aussi le début d'une histoire un peu plus longue par la suite avec Pierre Baptiste ou pas?
Mais tu es très perspicace.
Ah bah oui, souvent ouais, c'est des laboratoires, donc il y a souvent des envies d'aller plus loin parce que 2 minutes 20, on reste un peu sur notre fin, nous, là.
Et bah oui, j'imagine. En plus, qu'il a fallu faire des choix. Tout ce qu'on a tourné au tournage, on n'a pas pu les mettre dans le 2 minutes 20, donc c'est vrai qu'on a encore d'autres images à pouvoir faire découvrir. Donc, oui, effectivement, ce format de 2 minutes 20 potentiellement peut devenir un format de 5-6 minutes. Donc oui, on va le développer dans une version un peu plus longue, effectivement.
Bon, à suivre, en tout cas. Merci ma chère Zoé, on te voit bientôt dans d'autres choses là, en 2024.
Écoute, pour le moment non, pour l'instant je suis bien chez ITC, je passe voilà quelques castings, j'écris des projets, je mets en place plein de choses. Donc peut-être fin 2024, voyons voir ce que ça donne.
Bon, on se recroisera de toute façon 2024, c'est sûr. On t'embrasse très fort et puis on te dit à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
À très vite. Allez, on exclut podcast, on va continuer à parler de La Fuite. Je vous rappelle que le court-métrage est en compétition Nikon Film Festival et on va en parler avec un enfant du pays, hein, de la Nouvelle-Aquitaine, Pierre-Baptiste Mazoyer, un voisin de la Charente-Maritime puisqu'il est dans les Deux-Sèvres, Pierre-Baptiste, et qui a réalisé justement La Fuite avec Zoé et Manon, ainsi que Jacques Mazoyer. Bonjour Pierre-Baptiste, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous de me recevoir.
Mais on va compléter un peu les dires ensemble de Zoé. Alors déjà, comment est né ce projet de La Fuite pour toi, dans ta tête notamment? Parce que toi déjà, depuis que t'es tout petit, le cinéma c'est un rêve pour toi.
Ouais, j'ai commencé à faire des courts-métrages quand j'avais 12 ans à peu près. Et puis voilà, donc ça fait depuis ce moment-là, avec une petite période de creux. Au niveau de la fin du lycée, quand on se cherche, mais sinon, ça a toujours été l'envie de raconter des histoires, que ce soit à l'image, dans des romans, voilà.
La campagne de chez toi, c'était une évidence de tourner dans ce contexte-là. D'une, peut-être faire un peu un hommage aussi à ta région, évidemment, et puis parce que, évidemment, le sujet s'y prête bien aussi.
Ouais, exactement. C'est quand on a fini le scénario du court-métrage, comme c'est un très court métrage, on pense un peu à toutes les étapes de production en même temps. Donc, pendant qu'on écrit, on pense déjà à comment on va tourner, et comment on va monter. Et du coup, ouais, c'était une évidence parce qu'il y avait tous les décors qui s'y prêtaient, les décors qui me parlent. C'est assez important quand on tourne d'avoir des décors où on sait ce que ça va donner à l'image. Donc, ça faisait aussi beaucoup de repérage en moins puisque j'avais déjà tous les lieux en tête. Donc, ouais, c'est assez rapide. La décision là-dessus.
Alors justement, on va parler des contraintes, parce que tu le disais, on est sur du court-métrage, mais court, très court même, hein, puisque c'est limité à 2 ouais. minutes 20, et ça, c'est une contrainte que vous donne le Nikon Film Festival. Comment on s'adapte justement à ces contraintes pour faire quelque chose d'équilibré, de compréhensible, justement pour le spectateur?
Déjà, faut penser, faut pas être trop ambitieux, faut être conscient que 2020... Oui, c'est très très court. Nous, on a des scènes qui ont sauté dans notre version de base, et c'est aussi au montage on se rend compte que avec 2 minutes 20, on doit aller à l'évidence et il y a des choses qui sont pas forcément obligatoires au final. Donc oui, on s'adapte à l'écriture déjà en essayant de mettre le moins de scènes possible et en essayant d'avoir la même structure qu'un court-métrage classique ou qu'un film, mais en ultra accéléré, quoi.
Oui, avec en plus encore une autre contrainte supplémentaire, c'est le thème, puisque cette année, c'est le thème du feu. Donc, vous devez en tout cas insérer le thème du feu dans vos courts-métrages à tous. Hein.
Ouais, exactement. Bah, cette année, oui, c'est un thème qui était très parlant, je trouve, qui était très visuel, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont choisi, parce que c'est tout de suite inspirant. Le feu, il y a plein de façons d'aborder le sujet. D'ailleurs, on le voit dans tous les 2700 courts-métrages, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'idées. Mais oui, c'est hyper parlant. C'est une contrainte, mais cette année, je la trouvais, je trouvais que c'était une contrainte qui donnait envie d'écrire, qui était hyper inspirante.
Alors, on a parlé du sujet, évidemment, avec Zoé il y a quelques instants, mais aussi elle nous confiait qu'il y avait des scènes qui avaient été tournées, qui n'avaient pas pu être mises au montage. En tout cas, est-ce que c'est dans l'objectif, est-ce que c'est dans l'envie de pouvoir sortir ce court-métrage dans une version plus longue, peut-être 5-6 minutes par la suite, une fois que le Nikon Film Festival avec la compétition sera terminée?
Ouais, exactement. Et c'est même dès l'écriture, on s'est dit que on aimait beaucoup ce projet. Donc évidemment, au tournage, puis au montage, ça a été une évidence ensuite quand on a vu la matière qui nous restait, la possibilité de faire durer des scènes, d'agrandir un peu l'univers de ce très court métrage. Et aussi, le Nikon, ça a été le déclencheur, mais on s'est dit qu'on c'est quand même agréable de faire vivre sur plusieurs mois, voire une année. Un court métrage en festival, quoi. Donc, oui, c'est l'objectif de faire une version un peu plus longue, comme vous disiez, 5-6 minutes, peut-être 7 maximum, pour aller les présenter à des festivals un peu partout.
L'histoire de la rencontre un peu avec Zoé Séverin, évidemment, que tous les fans d'Ici Tout Commence connaissent, parce que là, elle est méconnaissable, elle est vraiment dans un registre totalement différent de ce qu'on peut voir de Jasmine dans Ici Tout Commence, et je crois que c'est une belle histoire d'amitié entre vous deux, hein.
Ouais, exactement. Bah après, c'est en gros, on s'est rencontrés par le biais de ma compagne, parce qu'elles étaient toutes les deux en école de théâtre ensemble, et depuis tous les trois, on se lâche pas et on fait plein de projets. Donc certains qui aboutissent, d'autres non, d'autres qui sont en préparation, mais ouais, on travaille beaucoup ensemble, on se voit beaucoup.
Pierre-Baptiste, on rappelle jusqu'à quand on peut voter pour la fuite sur le site du Nikon Film Festival?
On peut voter jusqu'au 12 avril. Et donc, on a besoin de beaucoup de soutien. Déjà qu'on en ait énormément. Et ça, c'est vraiment un plaisir. S'il y a des gens qui écoutent cette émission et qui sont allés voter pour nous, merci. Parce que franchement, on a des retours incroyables. Donc, jusqu'au 12 avril, on peut soutenir le film. Et même le partager, le revoir. C'est disponible.
Merci beaucoup, Pierre-Baptiste, d'avoir été avec nous, en tout cas pour parler du Nikon Film Festival et de ton film La Fuite avec Zoé Séverin, on rappelle, mais aussi Manon Roger et Jacques Mazoyer. Petite air de famille, là?
Exactement, c'est mon père, oui.
Voilà. M'en doutais un petit peu. On le salue évidemment aussi au casting. À bientôt et merci beaucoup.
Merci à vous.
Allez, bougez pas dans un instant. Armel Dutch, Myra Schmidt, Chloé Chaudeuil, Arthur Dupont, Bruno Solo, Kevin Lévy, Aurore Delplace nous rejoignent dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Sur un bout de papier, quelques mots effacés de toi. Moi, je serai plus jamais la même. Je vais essayer quand même. Et toi? Alors c'est ça, un souvenir. On ne l'invite pas, il ne veut plus partir. Je veux l'arrêter. Faut l'arrêter. Je te pardonne. Comme si c'était vrai. Oh,
accroché au passé. C'est tellement dépassé, c'est n'importe quoi.
La télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à l'art du crime qui revient pour un nouvel épisode inédit. Vous savez qu'à chaque épisode, eh bien, nous sommes là pour en parler de l'art du crime. On adore cette série avec Éléonore Bernheim et Nicolas Gobe. Mais ce coup-ci, c'est une des guests de l'épisode qui est avec nous pour en parler. C'est Armel Dutch. Bonjour Armel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Armel, j'imagine le plaisir qu'on peut avoir à tourner dans une série, même en tant que guest, consacrée à l'art, quand on est artiste. Puisque là, à chaque fois, on s'immerge aux côtés, on va dire, d'un artiste contemporain ou pas. Et puis, au cœur, évidemment, aussi d'un musée. C'est le musée Jacquemart-André, justement, qui est à l'honneur dans cet épisode inédit. Quel souvenir tu gardes de cet épisode, en tout cas pour toi?
Alors déjà, moi, je suis... Alors, mon premier temps, tu vois, moi, je suis une fan inconditionnelle de l'art de la Renaissance. Donc, ça tombait plutôt très bien parce que c'est de Botticelli dont on parle justement dans cet épisode. Et d'autre part, je ne connaissais pas toute la collection Jacquemart-André et j'ai été fascinée. Et heureusement, on a pu tourner juste avant qu'ils commencent les travaux. Parce que je crois que là, ils sont encore fermés pendant peut-être 1 ou 2 ans.
Ah oui, effectivement.
Donc, c'était une vraie chance et de se retrouver. Alors là, vraiment, ça, c'est la magie de cette série. C'est de se retrouver seul avec l'équipe, avec le musée qui, entre guillemets, nous appartient, quoi. Et c'était magique. On a pu voir des œuvres sans qu'il y ait de monde autour de nous. Et ça, je trouve que c'est vraiment un cadeau, quoi.
Alors, toi, tu y joues le rôle de Claire Jodel. Pour planter un peu le décor, on va se retrouver dans un très bel atelier, le corps d'une restauratrice en art, et retrouver ainsi qu'un chef-d'œuvre que Florence Chassagne va identifier tout de suite comme un Botticelli. Et Antoine et Florence vont être propulsés dans un jeu de piste et vont être sur la trace de ton personnage qui a disparu depuis 7 ans. Voilà un peu le synopsis de départ. Et comme tu vas être la première suspecte, évidemment, de ce meurtre, ils vont partir à ta recherche.
Oui, tout à fait. Ce que j'ai bien aimé dans la série, parce que sans dévoiler évidemment toute l'histoire, parce que c'est quand même là le cœur de l'intrigue, c'est la disparition de cette femme. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le pendant que la réalisatrice, Floriane Crépin, a réalisé en m'identifiant totalement à la Vénus de Botticelli. C'est-à-dire que ce personnage est identifié un peu comme un fantasme. Et ça, c'était assez jouissif à jouer. Pour ce rôle, j'avais une perruque sur mesure, rousse, voilà, comme les représentations de beaucoup de femmes dans cette époque Renaissance, dans l'art de la Renaissance. Et ça, c'était vraiment assez fantastique. J'ai joué aussi, du coup, parce qu'il faut pas oublier ça, on peut quand même le dire, c'est qu'en fait, j'ai abandonné mon mari.
Joué par Lou Denis et Lyon.
Exactement, voilà, ça a été un vrai plaisir, même si on n'avait pas beaucoup de scènes ensemble, parce que justement, il me cherche.
C'est ça.
Donc, tout le but est là. Mais c'est vrai que c'était très amusant de faire ça. Moi, j'avais déjà fait un rôle comme ça où entre guillemets, voilà, on est un petit peu, pas le personnage principal de l'histoire, mais justement la clé, en fait, pour résoudre une intrigue. J'avais déjà fait ça dans Pigalle. Et c'est vrai que c'est des personnages assez mystérieux. Et le fait de remporter ça en l'identifiant à justement la Vénus de Botticelli, bah vraiment, ça m'a beaucoup amusée.
En tout cas, on s'ennuie pas pendant cet épisode. On va suivre toujours, bien sûr, hein, Florence et Antoine qui vont être un peu toujours chien et chat, surtout qu'en plus, ils essayent de s'éloigner un peu l'un de l'autre après leur séparation. Et il va y avoir une histoire d'application qui va mettre un peu le feu aux poudres, évidemment, comme toujours entre nos deux amours au transit. Et il faut dire que c'est toujours jouissif de voir ces deux-là avec.
Ah bah c'est surtout que franchement, ils font une équipe. Alors moi je connaissais Nicolas déjà. J'avais déjà tourné avec lui, mais c'est vrai que franchement, il pouvait pas trouver mieux que ce duo. Hein. Vraiment, ça, c'est mon sentiment profond, parce que ils ont une complicité autant, je trouve, à l'écran que dans la vie, qui est assez géniale. Ils sont hyper drôles, sympathiques. Quand vous débarquez en tant que guest dans la série, on est accueillis superbement, et ça, c'est quand même très agréable.
T'as un souvenir particulier à nous raconter, justement, de ce tournage ?
Ouais, j'ai un souvenir. Je dirais vraiment un mot sur la réalisatrice, sur Floriane. Pareil, c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup, qui tourne depuis peu en tant que réalisatrice. C'était une ancienne script avec qui j'avais déjà eu la chance de travailler quand elle était script. Et en fait, mon souvenir, je crois qu'il sera vraiment fixé sur elle, parce qu'elle a une sensibilité. Quand elle te demande quelque chose sur le plateau, quand elle te donne une indication, elle fait ça toujours avec beaucoup d'énergie, mais elle y met beaucoup de poésie. Elle regarde les acteurs avec des yeux très bienveillants, et en même temps on sent qu'elle s'amuse à faire ça, et ça c'est mon souvenir, et notamment le premier plan qu'on a fait où je devais regarder la caméra et je me disais que je la regardais elle.
Ah, c'est chouette ça. Quand il y a cette alchimie entre la comédienne et la réalisatrice, c'est toujours génial ça.
Qu'on cherchait une respiration commune. Et ça, franchement, c'est pas tous les jours, quoi.
La muse perdue, c'est le titre de cet épisode inédit qu'on va suivre ce soir à 21h10 sur France 2. On va revenir aussi sur un grand moment pour toi, Armel. C'était il y a quelques semaines au Festival de l'Alpe d'Huez, vu que tu y as participé en petit clin d'œil, pour parler du court-métrage « Allez ma fille » où tes deux filles jouent dedans, et la révélation évidemment de ce court-métrage qui a été primé meilleur court-métrage, c'est Mado, ta fille, qui offre une partition absolument géniale. Et on découvrira ce court-métrage dans le cours de l'année 2024, je crois, sur Canal, hein, sur MyCanal.
Alors oui, sur MyCanal, parce qu'il a été, coproduit par, en tout cas soutenu par France TV. Donc il passera certainement sur les plateformes de France TV. Effectivement, on pourra le retrouver sur MyCanal. Mais je pense qu'il va continuer sa petite vie avant de sortir sur les plateformes dans les festivals.
Oui, et puis ça mérite, parce que franchement déjà avec un prix, ça a été vraiment un grand moment pour vous tous, et tu y fais une petite apparition sur une estrade pendant une compétition.
C'est ça, pour vraiment dire un peu l'histoire, c'est vraiment donc Chloé Joanet qui a réalisé ce film, c'est ma belle-fille, donc c'est la fille de Thomas Joanet et de Alexandra Lamy. Donc Thomas Joanet qui est mon mari, donc il s'avère que Chloé a trouvé cette énergie folle du haut de ses 26 ans à écrire, trouver une production, réaliser son court-métrage, embarquer toute sa famille dedans, en tout cas une partie de sa famille, Et on a eu la chance de tous se retrouver avec Alex, avec Audrey, une espèce de famille recomposée, tous là-bas, pour cet événement. Et pour nous, elle avait déjà bien évidemment gagné, parce que surtout, on sait combien c'est compliqué de faire un court-métrage. C'est aussi difficile qu'un long-métrage, ça demande tant d'énergie. Et j'avoue qu'on a tous été bluffés, et on a tous eu notre larme à l'œil, effectivement.
Ah, il était incroyable.
Quand elle a eu le prix, et on s'y attendait pas, on l'espérait, évidemment. Et puis nous, on le trouvait bien, le film, mais il fallait qu'il plaise à un plus grand nombre, et c'était la première fois qu'il était en plus projeté devant, il y avait quand même, je crois, 1000 personnes.
Ah, hein, c'était fou.
C'est ça. Donc c'est vrai que tout d'un coup on se jette dans le vide.
Mais oui. Bon, on sera là en tout cas pour sa mise en place sur les plateformes, et on va suivre ce projet de très très près qui s'annonce en tout cas de très bon augure pour peut-être un futur long pour Chloé, en tout cas on lui espère bien évidemment. Et puis c'est vrai que ça m'a fait penser, en vous voyant tous ensemble à l'Alpe d'Huez, un peu à la tribu, la série qui va vous faire face en tout cas ce soir pour son final sur TF1 aussi, donc c'est assez drôle. L'art du crime, la muse perdue. entendu, c'est ce soir en tout cas 21h10 sur France 2. Avec toi, il y a tout plein de beau monde, Lou Denis Lyon, il y a aussi Boris Terral en Sandro Botticelli, ouais, qui est génial. Et puis on va y retrouver notre duo préféré, Nicolas Gomes et Léonore Bernheim. Merci à toi Armel, à bientôt.
Ouais, merci beaucoup Alain, salut, à bientôt.
Lundi soir, inédit.
On nous a appelé sur un homicide. Une restauratrice d'œuvres d'art, apparemment, l'a tuée pour récupérer un tableau sur lequel elle travaillait. Et quoi, ça vaut quelque chose, un vieux bout de tissu comme ça?
Capitaine, si c'est ce que je pense, c'est un portrait peint par Sandro Botticelli en 1475. C'est exceptionnel.
Ah oui, d'accord. Il doit être très amoureux de sa femme pour la peindre comme ça, non?
Vous devez penser que je suis fou?
Non, pas du tout.
Si tu veux mon avis, ça pue le trafic à plein nez.
Mais go, go, go!
Les grands maîtres de l'énigme sont dans l'art du crime. Lundi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, dernière semaine, c'est le grand final de votre série. Tout cela, je te le donnerai pour France 2. Et c'est Bruno Solo qui nous rejoint cette semaine, puisque là, c'est la phase enquête, on va dire, de cette série que l'on couvre avec Bruno. Merci d'être là.
Ah, c'est toujours un plaisir, vous le savez.
Mais oui, je sais bien. Écoute, tu incarnes cet enquêteur où, aux côtés justement du personnage de Manuel, vous allez tout faire pour prouver que effectivement ce n'était pas un accident de voiture, mais que c'était un assassinat. Cette histoire, c'est une histoire de famille à tous les ingrédients. On le disait deux autres semaines aussi, mais de la saga d'été, c'est hyper bien ficelé. C'est une série qui nous a bluffé, mais dès le départ, avec une froideur de la part de cette famille vis-à-vis de Manuel, qui était assez dingue. Toi, qu'est-ce qui t'a plu dans le projet, Bruno?
Bah, j'ai joué de ce personnage absolument. Misanthrope et en même temps très lucide sur qui il est, dont on sent évidemment que cette posture d'homme bourru, rabougri, conservateur, réactionnaire,
près de la retraite,
paresseux intellectuellement, un peu qui fait preuve de saillie homophobe, etc., sexiste, etc. On comprend que c'est un personnage plus complexe et qui va se servir du personnage de Manuel Ortigosa comme un cheval de Troie pour pouvoir entrer dans la grande famille de la marquise. Le spectateur va découvrir que il a des raisons très intimes, très personnelles d'enquêter sur cette famille. Et on va découvrir aussi ce qui l'a amené à être ce personnage aussi peu recommandable, aussi agressif, aussi maladroit, et joue sans diplomatie, manquant foncièrement de psychologie. Et en fait, c'est un homme torturé, c'est un homme tourmenté, blessé, qui a une revanche très puissante à prendre vis-à-vis de ce qui lui est arrivé, et en grande partie de ce qui lui est arrivé à cause de cette famille. C'est-à-dire qu'en fait, on va découvrir, là, dans les deux derniers épisodes, les motivations profondes de mon personnage et les explications, sans pour autant l'excuser de toutes ses attitudes, de toutes ses postures, mais les explications très concrètes de ce qui l'a bouleversé, de ce qui l'a changé et qui en a fait l'homme qu'il est aujourd'hui. Cet homme qui se cache derrière une sorte d'agressivité, une sorte un homme rance, un peu comme ça, un peu revenu de tout. Et on va mieux comprendre.
Alors, ce qui est assez dingue, c'est que dans cette série, il y a plein de thèmes qui sont abordés. S'il y a le mariage pour tous, il y a aussi des histoires de succession, il y a de l'enquête, il y a du thriller, il y a vraiment de tout. Quand tu as lu le scénario, toi, tu l'as lu en une seule fois, tu as été happé tout de suite.
Oui, j'ai trouvé qu'il était haletant, qu'il était labyrinthique, passionnant, avec des personnages absolument pas manichéens. Même les personnages qui apparaissent comme personnages joués par Aurélien Vic, Geoffrey, qui peut apparaître comme un personnage caricatural, méprisant, totalement englué dans sa famille et dans sa classe, est un personnage aussi blessé. C'est ça que j'ai aimé, c'est que au fur et à mesure qu'avance l'enquête, on s'aperçoit qu'ils ont tous des motivations extrêmement profondes à dire qui ils sont vraiment. Voilà, à ne pas être simplement des victimes, mais à expliquer comment ils en sont arrivés là. Ouais, le personnage de Richard n'est pas là par hasard du tout. Cette enquête, c'est un prétexte surtout à faire savoir au monde qui il est et à découvrir
qui il est,
pourquoi il en est là, ouais. À comprendre pourquoi il est arrivé à cette misanthropie qui le bouffe, pourquoi ça se passe mal avec sa femme et ses enfants, pourquoi il a une telle haine de l'humanité, pourquoi il est presque un handicapé social, et il a besoin de découvrir la vérité pour s'accomplir enfin, et j'ai envie de dire presque de mourir tranquille, parce que c'est un homme de 60 ans, il a sa carrière, sa vie, elle est déjà presque derrière lui, et donc là il veut juste s'apaiser, mais pour s'apaiser il est obligé de passer par la colère, et pour résoudre cette colère, enfin pour diminuer cette colère qui est en lui, il a besoin d'aller au bout de cette enquête, plus qu'encore que le personnage joué par Manuel Ortigosa. Voilà, cette enquête, elle est autant pour lui que pour découvrir une vérité policière. Il se fiche de savoir qui a fait quoi. Il a surtout besoin de faire savoir à ceux qui lui ont fait quelque chose pourquoi il en est là.
Moi, ce qui me plaît dans cette série, c'est qu'en fait, chaque personnage a un jardin secret. Chaque personnage a quelque chose. Donc, évidemment, le tien pouvait pas passer au travers, mais tous recèlent des secrets. Et c'est en train de tous voler en éclats, et ça va voler en éclats jusqu'à la fin, du coup.
Quand vous verrez l'épisode 5 et 6, vous verrez que celui qui a le plus à gagner, qui avait le plus à perdre et qui a le plus à gagner de cette enquête, c'est mon personnage.
Voilà, c'est pour ça que t'es là, pas cette semaine 3. On va finir par tes projets, Bruno, pour cette année 2024. Il y a plein de choses qui t'attendent.
Oui, là, je prépare une grosse saga aussi pour la télévision, mais je peux pas en dire plus, que je vais commencer à partir du mois de mars. Voilà, donc.
T'es bien occupé pour 2024. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été avec nous. Tout cela, je te le donnerai. Le grand final, c'est cette semaine sur France 2, et c'est à ne pas rater. Et on va se quitter avec un extrait. À très vite. Merci.
Anthony Laville menaçait de révéler qu'Emeric avait tué quelqu'un.
Non mais il s'est pas suicidé, il a été pendu post-mortem. Plusieurs plaies à l'abdomen, elles sont quasiment identiques à celles d'Emeric.
L'arme du crime est un poinçon, comme celui que t'as remis à Richard.
D'après Catherine Saguillou.
Lâchez-moi !
Il a fini par ressentir de l'attirance pour moi, j'ai rien vu venir.
Je vais m'occuper de lui.
Je suis enceinte.
Depuis le temps que j'espérais avoir un petit-fils qui nous ressemble.
Fin 94, à Providence, Emeric aurait découvert un moine pendu dans sa cellule.
Ce type était pas en phase terminale, un cancer généralisé, hein.
Tout le monde ment, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là?
Il a vu l'impensable. En voulant défendre Geoffrey, Emeric a utilisé sa ceinture pour étrangler Verdaguerre.
Qu'est-ce qui se passe?
Geoffrey, il a voulu mourir, il a pris des cachets.
Il fait un arrêt, reculez-vous, madame, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide!
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Léo Mattei. Vous savez qu'il est revenu jeudi dernier. Vous pouvez d'ailleurs revoir les deux premiers épisodes de cette 11e saison sur TF1+, la plateforme de streaming gratuite de TF1. Et on va découvrir donc la suite jeudi prochain avec Maïra Schmitt, qui est notre invitée. Bonjour Maïra.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Héloïse fait un retour fracassant, on peut dire, dans cette 11e saison, puisqu'elle revient avec un petit cadeau bonus, les retrouvailles mouvementées. Exactement. Entre la grand-mère d'Héloïse, hein, la mère de Léo Mattei, qui l'a abandonnée, et elle va essayer de jouer un peu les entremetteuses, en tout cas, dans ce contexte, pour le faire retrouver, la mère et son fils, incarné avec brio par Brigitte Fossé, qui est incroyable. Exactement. Et c'est vrai que c'est un peu le fil rouge de cette saison. J'imagine que pour toi, que le personnage d'Héloïse revienne dans ces conditions-là, ça a dû être génial.
C'était génial parce que je me demandais un petit peu comment ça allait se passer, parce que c'est sûr que bon, là on avait une histoire qui s'était installée depuis 2-3 ans avec Héloïse, qui retrouve son père, qui se réinsère dans la vie, c'était assez compliqué et tout ça. Mais maintenant qu'elle était partie avec son fils et son mec, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Mais Héloïse est pleine de ressources. Et si elle faisait pas un peu de bazar, ce serait pas Héloïse. Donc c'était vraiment chouette. Et puis j'étais très contente de découvrir pour de vrai Brigitte Fossé et de revenir voir Jean-Luc et toute l'équipe de Léo Mattei.
C'est comme si tu les avais jamais quittés.
Oui, vraiment. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les membres de l'équipe, il y en a qui n'ont pas changé depuis quelques années. Donc je me suis fait un plaisir de les retrouver. Et puis la brigade, ça a un petit peu changé, ça a un petit peu bougé, mais c'était chouette de voir aussi ce nouvel élan, cette nouvelle dynamique, c'est comme si rien n'avait bougé.
Je pense que c'est Jean-Luc aussi et Nathalie qui instaurent beaucoup ça, c'est mais ça. On sent vraiment une famille autour de cette série.
Exactement, c'est exactement ça. Moi, je sais que quand je tournais pas, je suis allée les voir une fois parce que c'est mes amis en fait en dehors de la série. J'ai envie de les voir, j'ai envie de partager des choses avec eux. Et je pense que oui, le noyau de tout ça, c'est Jean-Luc et Nathalie qui créent une bonne ambiance et puis une ambiance de travail aussi malgré tout, parce que c'est des gens qui sont motivés, qui font le meilleur pour la série. Je trouve que c'est très qualitatif depuis quelques années, l'image, etc., etc. Il y a vraiment un level qui est passé au-dessus, et je trouve ça assez chouette de voir la série qui continue à grandir avec les mêmes personnes et avec des nouveaux arrivants aussi.
Ouais, et puis c'est aussi très bien dans justement une série un peu policière, c'est qu'il y a de plus en plus de comédie.
Oui.
Et ça, je sais que c'est une volonté justement de la production d'insérer de plus en plus de comédie pour que ça devienne vraiment une comédie policière, parce que c'est des fois des sujets lourds qui sont traités, hein, avec Léo Mattei, Brigade des mineurs. Et d'ailleurs, dans ce double épisode, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a disparu, et 10 ans plus tard, une petite fille nommée Bertie va avoir des flashs et va avoir l'impression que c'est elle, Vanessa, d'où le titre Je suis Vanessa de ce double épisode. Et c'est toute cette enquête pour essayer justement de démêler le vrai du faux avec des guests incroyables. Fabrice Deville, Ingrid Chauvin, Arnaud Gidouin. Il y a plein de monde en tout cas dans ce double épisode que vous allez voir jeudi.
Mais moi je trouve ça intéressant parce que il y a le traitement de fond de l'histoire qui est policière, qui est lourde et tout ça. C'est comme tu dis, il y a la comédie, mais il y a aussi le côté, enfin, il y a d'autres thèmes, en fait, qui se dégagent de tout ça. Par exemple, pour les petites filles, on peut se demander, la place de l'identité à cet âge-là. C'est des choses qu'on traite pas souvent. Et je trouve ça chouette que ce soit fait, à la télé, quoi.
Et puis il y a Théo Fernandez aussi, hein, qui est en guest pour le coup, qui est lunaire. Et vous allez voir en tout cas que on va assister à des retrouvailles un peu spéciales entre Léo Mattei et sa mère autour d'une partie de cartes où Théo Fernandez lui va piper rien. Je crois qu'on va pouvoir dire ça. Il capte rien à ce qui se passe.
Ah non,
il est lunaire.
Non,
il est lunaire.
C'est un personnage. Moi, je trouve ça absolument génial qu'il y ait autant de liberté dans le scénario, dans l'écriture. Et qu'on puisse mettre des personnages comme ça, qui soient pas là juste pour donner des informations sur l'enquête, sur l'avancement des choses, mais qui soient là pour donner vraiment une couleur à la série. Et il y avait que Théo Fernandez pour faire ça.
Il faut dire qu'Héloïse va vraiment jouer les entremetteuses pour essayer de faire renouer, en tout cas, Léo et sa mère, parce qu'elle a certainement souffert aussi de l'absence de cette grand-mère.
Exactement. Bah, je pense que ça fait partie de son développement. Héloïse, elle a une vie qui est compliquée. Elle a quand même été enlevée pendant des années de son père, et je trouve ça logique finalement que ce soit elle qui réunisse tout le monde en se disant allez, on va ressouder cette famille, quoi, du moins essayer.
Ouais, ça va pas être des retrouvailles faciles, hein. On va voir, c'est un peu le fil rouge de cette saison, et c'est ça qui est bien, c'est que ça permet, eh bien, qu'en même temps que les enquêtes, on suive un peu ce dénouement sur les 6 épisodes qu'on va suivre, les 2 jeudis et puis les 2 derniers qui sont diffusés aussi, voilà, dans une dizaine de jours. Il y a des scènes un peu drôles qui ont eu lieu, justement, avec Brigitte, parce que c'est pas la dernière, justement, un peu à friser Brigitte Frossé, hein, sur un tournage.
Ah, Brigitte, elle est solaire, elle est rigolote. Moi, la séquence que j'ai préféré tourner avec elle, c'est dans les cabines d'essayage. À un moment donné, on fait du shopping. C'était très drôle, c'était que de l'impro. Et en fait, elle me dit, écoute, moi, j'aime bien improviser. Donc, si tout le monde est d'accord, on fait un peu d'impro. Et en fait, à chaque fois, il sortait des choses nouvelles et rigolotes. Il n'y a qu'avec Brigitte qu'on peut faire ça.
T'imagines qu'elle a joué la mère de Sophie Marceau, quand même?
Ouais, je sais, ça fout un peu la pression.
Ça a dû être assez incroyable comme expérience. En tout cas, on a eu la chance de la recevoir dans l'émission aussi. Ouais. Brigitte, on l'embrasse évidemment très très fort. Mais voilà, on imagine les bons souvenirs. Là, on va suivre, évidemment, je le disais, c'est ce dénouement. Mayra, on va terminer par tes projets. Pour 2024, ça fourmille un petit peu?
Alors, il y a des choses qui vont sortir, des choses qu'on attend. Pareil, ça a mis longtemps à sortir, mais ça va sortir. Il y a C'est le monde à l'envers de Nicolas Vanier qui va sortir en octobre.
Oui, ça c'est pour le cinéma, hein, je crois.
Ça c'est pour le cinéma. Et pour la télé, j'ai aussi fait une série qui s'appelle Isabelle, qui retrace la vie d'une tueuse en série qui a vraiment existé. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est une femme qui a, entre guillemets, trouvé plusieurs de ses maris, amants morts. Sauf qu'au bout d'un moment, la police a dit, mais attendez madame, ça fait 4 fois que vos compagnons meurent dans des circonstances un peu étranges. Je pense que là, il y a un problème. Et donc moi, je joue la belle-fille d'Isabelle, la fille de son dernier amant.
Oh là, là c'est différent. Voilà. On n'est plus dans le même contexte. Et ça, c'est pour quelle chaîne, pour le coup?
Ça, c'est pour France Télé.
Bien, à suivre bientôt. En tout cas, bah, tu reviendras nous en parler avec grand plaisir. En tout cas, on t'embrasse
avec
très
plaisir.
Fort, Mayra. Et puis, on te dit à très, très bientôt pour de nouvelles aventures dans Chute, on écoute la télé. Et on te rate pas, évidemment, dans Léo Mattei. Ça sera donc jeudi soir à 21h10 sur TF1. On rappelle encore une fois que les 2 premiers épisodes de la saison sont déjà disponibles sur la plateforme de streaming gratuite TF1+. Merci beaucoup. À bientôt.
Avec plaisir. Surprise!
Ma fille! Quand un gamin est en danger, on lâche rien, c'est la règle. On se met au boulot?
Oui,
on se met au boulot. Mon métier, c'est d'aider les enfants. Il se passe pas une seconde sans qu'on recherche pas la personne qui s'en prend à votre fils.
Ma collègue, elle peut vriller d'un instant à l'autre.
J'ai vraiment beaucoup de mal à me contrôler devant les coups.
Il va falloir qu'on intervienne en urgence. On va commencer par là.
SVLD.
SVLD.
Si vous le dites. Je vous sens pas comme d'habitude, je vous sens nerveux.
Je retrouve ta mère. Elle me dit qu'elle veut te voir. Qu'est-ce que je fais?
54 ans que j'attends ce moment.
Léo Mattei est de retour jeudi à 21h10 sur TF1. Et toutes les saisons précédentes sont disponibles en streaming sur TF1+.
Notre coup de cœur télé va s'intéresser au Petit Meurtre d'Agatha Christie, version années 70. Vendredi, vous allez pouvoir découvrir un nouvel épisode inédit sur France 2, Mortel Karma. On a la chance aujourd'hui de recevoir Chloé Chaudoy qui est avec nous. C'est la première fois. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Qui joue le rôle de Rose Belcourt et puis Max Beretta évidemment, qu'on a plaisir à retrouver. Arthur Dupont, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Alors il y a à peu près 2 ans, hein, je crois que cette nouvelle formule années 70 a vu le jour. Le succès et continue. Vraiment, c'est une recette aujourd'hui qui est un énorme succès, les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Est-ce que vous, quand il y a eu ce changement un peu d'époque et que vous êtes arrivé dans la série, vous aviez un peu quelques craintes ou pas? Que le public peut-être suive pas
Oui, moi je... Pas qu'ils suivent pas, mais j'avais une crainte, c'est de me dire, ok, donc on arrive quand même après un énorme succès, parce que ça a duré très longtemps en tout, jusqu'à maintenant, ça fait 12 ans que ça existe, les Petits Meurtres. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est là, qu'on tourne, donc il y a 10 ans avant nous, et avec un public, avec des gens qui apprécient la série, qui sont fans, et donc c'était plutôt la peur de pas être à la hauteur. Moi, c'était ça. Et après est venue, oui, l'appréhension de se dire, ok, donc après 8 ans d'habitude des spectateurs, est-ce qu'ils vont accepter que ça change d'époque? Il y avait une petite crainte, mais ça a été vite balayé par les premiers résultats d'antenne. Donc on était rassurés.
Alors, quel est ce rôle de Rose?
Une belle découverte, ce personnage, parce qu'il y a beaucoup de choses à jouer, beaucoup de plaisir.
Tous les épisodes sont différents, c'est ça qui est bien aussi, c'est que voilà, toutes les histoires sont différentes, tous les épisodes sont différents. Moi, je me souviens du premier épisode justement avec votre nouveau trio entre Beretta et Greco. Ouais. La première rencontre a été quand même un peu électrique. Hein.
Ouais, parce qu'après il fallait installer les.
C'est un peu misogyne, Beretta, quoi.
Oui, bah oui,
un peu.
C'est un homme qui est bien de son temps et même avec Rose Belcourt, il y a. Un refus d'écouter avec intérêt, respect la voix d'une femme parce que il part du principe que finalement il n'a pas écouté la vie, le côté un peu comme ça professoral d'une femme. Non, pour lui ça n'existe pas et il se bat contre ça. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toutes ces oppositions qui lient ces personnages et qui font que d'épisode en épisode, la relation peut évoluer avec comme ça ce tiraillement qui va être un peu plus dans l'acceptation après un espèce de retour de flamme. C'est jamais stable tout ça. C'est ça qui est intéressant.
C'était sans compter le grand caractère quand même de Greco, qui se laisse pas faire du tout. Alors, sur cet épisode Mortel Karma, on va avoir affaire à un patron d'un empire de luxe français qui va être assassiné. Seul problème, c'est qu'il était sur le point de déshériter sa fille. Alors du coup, bah, ça va être un peu la première qui va être suspectée dans l'histoire, Chloé.
Oui.
C'est bien résumé, hein, pour mettre les gens un peu juste dans le, hein, dans l'envie d'aller voir un petit peu la suite. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet épisode en tout cas?
Bah en fait, moi dans cet épisode-là, je sans dévoiler un peu le truc, mais la personnalité de Max Beretta change un peu, même beaucoup d'une certaine manière. Le défi et le plaisir, c'était de presque de rentrer dans des pompes différentes du même mec. Mais avec un aspect de sa personnalité ou des aspects de sa personnalité qui sont un peu différents. Ouais, c'était le défi. Et puis du coup, le rapport avec Rose Belcourt change aussi. On parlait de ces points de friction comme ça entre les personnages. Là, ça évolue sur cet épisode-là. Et donc ça, c'était hyper plaisant. Ouais. Et puis sur cet épisode-là, il y a la part belle aussi au côté hippie avec le personnage aussi de Bob qui est joué par Nicolas Lumbreras dans les autres épisodes. Et là, c'est un peu plus développé vraiment le côté hippie. Et ça, c'était chouette aussi.
Il y a des costumes qui sont merveilleux dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Moi, à chaque fois, j'adore. Chloé, toi, qu'est-ce qui va en retirer de cet épisode pour toi?
Justement, ce que disait Arthur sur son personnage qui change un peu de personnalité. On dit pas pourquoi. Rose, du coup, à l'inverse, change aussi. Et j'ai l'impression que Max devient un peu Rose et Rose devient un peu Max. Et voilà, c'est ça qui était assez chouette à jouer.
Il y a eu une scène assez drôle, quelque chose qui ressort depuis votre arrivée à la tête de la série, tous les deux.
Une scène où on est en planque dans une voiture. Cette scène, quand on l'a tournée, on a eu beaucoup de fou rire parce qu'elle était vraiment très très bien écrite et elle était très. On était en attente et Max, à un moment donné, fait une blague et Rose ne réagit pas du tout à la blague, trouve ça complètement absurde et le remet à sa place. Et ça, c'était quelque chose qu'on a pris beaucoup de plaisir à jouer.
Il y avait une autre séquence aussi dans un autre épisode où Rose Belcourt doit apprendre à être dans la séduction physiquement comme ça. Et puis moi, je lui donne un peu des cours. Je dis, bah écoutez, il faut être comme ça, comme si. Et puis il faut être vraiment, il faut faire plaisir à l'homme, lui montrer, enfin, un truc hyper, hyper misogyne, hyper relou, misogyne à mort. Et elle qui, elle essaye. Et moi, je m'attends pas du tout à ce qu'elle vraiment joue le jeu hyper bien. Et là, elle se lâche. Et elle devient envoûtante. Il y a ce grand moment de tension, un peu tension sexuelle. Il y a quelque chose de très fort qui est complètement lidé comme ça par Rose. Et lui se laisse avoir à son propre jeu. Et elle casse parce que elle jouait la comédie. Et donc elle est hyper surprenante là-dedans. Rose et donc Chloé. Mais c'était très drôle parce que d'un coup il y avait. C'était très difficile de garder son sérieux parce qu'elle était comme ça d'un coup hyper envoûtante avec des choses très soufflées comme ça. Et j'étais mort de rire, c'était très compliqué.
En tout cas, on passe de bons moments, c'est de la comédie policière comme on les aime, en tout cas. Vendredi, nouvel épisode, ça s'appelle Mortel Karma. On embrasse Emily Gawakan, évidemment, qu'on adore et qui clôt ce trio infernal. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été avec nous. On va se quitter avec un petit extrait. Mortel Karma, c'est vendredi à 21h10, juste après un si grand soleil sur France 2. Merci à tous les deux.
Merci à toi.
Merci.
Donc, il parle jamais.
Très peu. Un lama, ça sonde les âmes. C'est pas ce qu'il dit qui compte, c'est ce qu'il ne dit pas.
Alors, vous avez pu demander son emploi du temps à ce monsieur ?
Ah bah non, parce qu'apparemment, c'est super sacrilège. Annie, un lama, c'est un peu comme un évêque, ça se respecte. Il est parti de France il y a 30 ans pour s'isoler dans un ermitage sur les flancs de l'Himalaya et il est venu à pied jusqu'à nous en méditant. C'est ça son emploi du temps.
Il est venu à pied de l'Himalaya ?
Ben non, depuis l'arrêt de bus. Des fois, tu planes un peu, Annie.
Un Français qui s'exile à l'étranger, il devait avoir des emmerdes avec la justice.
Vous avez vraiment la misanthropie chevillée au corps, inspecteur.
Allez, bougez pas, on termine l'émission dans un instant en fanfare avec Aurore Delplace et Kevin Lévy. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
À quoi ça sert? Personne pour écouter. Allô, la terre. Allô, allô, maman. Comme j'ai beau. Je vis dans un monde, maman, où tout est faux. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Faut m'expliquer. Je vais plus attendre d'être moi. Je veux m'inventer, réinventer ma vie comme un ado. Et pourquoi pas, maman, me trouver beau? Comme un pantin qui dit non.
Trouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, nos invités aujourd'hui, une petite interview duo avec deux des comédiens que vous aimez certainement le plus dans vos séries préférées. Une qui est dans Un si grand soleil, l'autre c'est dans Demain nous appartient. Ils mènent des chemins aussi d'artistes assez incroyables, puisqu'on va parler humour, on va parler musique aussi, avec Kevin Lévy et Aurore Delplace qui sont avec nous. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Bruno Paoletti. Dans Demain nous appartient, Aurore va nous rejoindre dans un tout petit instant. Franchement, cette série, c'est une aventure assez incroyable pour toi. Et puis un personnage auquel se sont tellement attachés vite les gens. Et maintenant, quand ils viennent voir Cocu sur scène, franchement, c'est l'éclate.
Ah oui, bah, c'est vrai que Bruno Paoletti, c'est un personnage, c'est un peu un loser. Mais moi, j'adore jouer les losers. Il a pas de bol, mais je crois qu'il est touchant. En tout cas, on fait en sorte qu'il soit touchant, parce que il a pas de bol, mais c'est pas un père incroyable, mais il est plein d'amour, et c'est un bonheur de jouer ce personnage, et il me colle à la peau, et je suis très heureux et très honoré de jouer ce personnage tous les soirs sur TF1 avec Adair, alias Nathan.
C'est presque ton fils spirituel, hein. Franchement, mais on vous a super bien trouvé au casting tous les deux, là.
Ah ben, mais vraiment pour de vrai, on est à la vie comme à la scène ou en tournage, en tout cas, exactement pareil. On a des délires incroyables. Moi, je pourrais monter sur scène avec lui, je pourrais faire des vidéos comiques avec lui, et puis des vidéos aussi avec plein d'émotions. On se connaît par cœur, pourtant depuis pas longtemps, mais au regard, on se comprend, et je l'aime très fort, comme un fils.
Alors là, Bruno, sorti de prison, on y retrouve évidemment, un Bruno un peu seul, qui essaye de trouver encore à droite, à gauche, un peu d'essayer de s'agripper. Et puis c'est sur son fils que c'est tombé, mais c'est pas facile quand même, hein, la cohabitation entre les deux là.
Non, c'est pas évident, mais
pas prêt de pardonner.
Non, ça y est, il a commencé un peu à me pardonner. Maintenant, j'essaie de me rattraper, mais bon, je fais toujours des conneries. Mais ça fait partie et du personnage et un peu de moi aussi. C'est un peu le Pierre Richard de la série, mais ça me plaît. En fait, Nathan est un peu comme ça aussi. Donc, on se retrouve sur ce segment de personnages. On a beaucoup de points communs. Et comme moi, je suis arrivé après dans la série, j'observe beaucoup pour pouvoir prendre les tics qu'il peut avoir, des tocs qu'il peut avoir. Et moi, c'est très intéressant dans le personnage. On se retrouve beaucoup parce qu'on se comprend et on se ressemble à la vie comme à la scène télé, à la télé.
Alors, les séries quotidiennes, évidemment, c'est quelque chose de très populaire qui vous a vite popularisé, que ça soit toi ou Aurore. Et évidemment, quand on fait un spectacle, eh bien, les gens viennent voir, peut-être des fois connaissent pas Kevin Lévy sur scène, mais viennent voir Bruno Paoletti parce que c'est un personnage auquel ils sont attachés. Et là, ils découvrent une véritable tornade.
En fait, ça a rien à voir, mais ça se rejoint. Le spectacle s'appelle Cocu. Je joue un cocu, donc un loser. J'aime jouer les losers. Bah, évidemment, on est sur scène, donc l'énergie est décuplée. Puis je me permets de prendre mon piano, de chanter, la guitare, de danser, de jouer avec les mots, etc. C'est un clin d'œil parfois à Bruno Paoletti, évidemment beaucoup plus exacerbé, mais ça me plaît, et puis on se rejoint dans les personnages.
Ah, Aurore qui nous arrive, Aurore Delplace. Bonjour Aurore, comment ça va?
Mais ça va très bien, et toi?
Eh ben écoute, je suis très heureux de te retrouver, ce que je dis, l'occasion de vous avoir tous les deux en duo pour faire cette petite interview. On parlait de Demain nous appartient, on va parler un peu d'Un si grand soleil évidemment, mais là on parlait de Cocu et de ce spectacle. Je disais, c'est une véritable tornade, en tout cas ce spectacle sur scène, et pour les gens qui viennent voir Bruno Paoletti sur scène, ils découvrent Kevin Lévy dans Cocu et c'est une tornade, c'est incroyable. Nous, on a passé un super moment en voyant ce spectacle, et ça tombe bien parce qu'il passera peut-être près de chez vous. En tout cas, il sera notamment le 14 mars à Toulouse, et ça jouera également le 15 mars à Limoges. Exactement. Donc franchement, si vous êtes dans ces coins-là, ne ratez pas. Comment est venue l'idée de ce spectacle? Comment tu l'as construit? Combien de temps il t'a fallu pour le monter, l'écrire, le mettre en scène? Et comment tu t'es entouré?
Je me suis entouré tout seul, ce qui était déjà pas mal.
Pourtant, t'avais un metteur en scène, hein, quand j'ai vu le spectacle.
Oui, dans le spectacle, il y avait un mec qui était là, qui m'a dit de faire des choses. Bon, c'était de l'impro. Mais non, j'ai fait seul parce que je voulais, si je me plantais, m'engueuler. Et si je ne me plantais pas, m'applaudir. Comme ça, au moins, je ne m'en veux qu'à moi-même. Et après, je l'ai construit, en vivant, la situation. Et ça m'a permis d'en rire, parce que j'ai décidé de rire de la vie, parce que la vie est un jeu, alors rions et jouons. Ça sert à rien de prendre tout au premier degré, un peu de second degré, un peu de nuance dans une société qui n'accepte plus le second degré et les nuances. Et c'est bien dommage, parce que je pense que si on riait de la vie, ça passerait mieux. Alors rions.
C'est clair.
Voilà, exactement. Et après, j'ai Et j'aime écrire, j'aime me tromper, j'aime me planter, j'aime bien réussir aussi. Mais du coup, c'était intéressant de me mettre au pied du mur et d'être seul en scène parce que c'est vraiment un saut dans le vide et ça me plaît. Et je suis très heureux car le public est au rendez-vous. Alors merci au public.
Et pour un premier spectacle, non mais on n'est pas sur 1h15 quoi, le mec est pas un feignant. C'est-à-dire que là, il nous en donne pendant 1h45 et alors il saute dans tous les sens, mais t'es pas rincé à la fin ?
Non, pas du tout. Après,
il en reste un peu.
Oui, bah grave, parce qu'après je suis un hyperactif, deux je m'entraîne quand même, je cours tous les jours, n'est-ce pas Aurore, j'ai des abdos.
Des abdels.
C'est vrai.
Les abdos, t'es là, comme on dit.
Je suis d'Afrique du Nord, donc j'ai des abdels, exactement. C'est drôle ça. J'ai pas des abdos, j'ai des abdels.
Voilà. Eh bien, on va écouter un extrait de Cocu et on va revenir juste après cette chanson qui va vous rester dans la tête, je vous le dis. Voici tout de suite un petit morceau du spectacle de Kevin Lévy. Et on revient juste après, on va discuter musique aussi avec Aurore, puisque voilà, si vous connaissez Johanna Lemaire dans Un si grand soleil, vous allez découvrir aussi Aurore chanteuse. Et c'est bien beau aussi, peut-être vous aurez la chance de la voir en première partie de Kevin dans les dates à venir, on espère, ça sera la surprise. On écoute Cocu, Kevin Lévy, c'est le spectacle qui tourne partout en France.
Dans la salle, a déjà été infidèle. Non mais voilà. Dis-moi, qui n'a jamais baisé? Il y en a un qui applaudit. Le pauvre, il a dû être trompé tout le temps. Mais... Lui, c'est le cocu par excellence. Lui, je le connais. Ben, on fait partie de la même famille. Là, bien sûr.
Moi, jamais je t'aurais trahi. Je t'ai trompé. Mais je t'ai pas trahi. Mais si tu la trouves avec un mec à l'hôtel, tu fais quoi?
Je la quitte.
Heureusement que ton père était moins con. Je suis déchiré. Bonjour madame.
Bonjour.
Bah t'es cocu. Bah ça se voit. Non, enfin, mais t'as vu ta gueule? Elle pue la défaite. Il faut que tu laisses le mal sortir de toi. Ou que tu le laisses rentrer. Maman, tu fais un moment.
Et Léo, pourquoi? Bah, enfin, il regarde le match de foot. Et moi, je marque des buts.
Votre seule chance de ne pas être cocu, c'est de jamais le savoir. Ciao!
Voilà, ça donne, hein. Kevin, ça donne envie, en tout cas.
Ah bah, j'espère. En tout cas, c'est fait pour.
Ça donne envie d'être cocu.
D'aller voir le spectacle, hein, dirais. Déjà, ça sera pas mal. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, évidemment, c'est cette petite surprise en début, voilà, de spectacle, cette première partie qu'on a eu le droit, nous, en tout cas, quand on a été te voir, bah, c'est la présence d'Aurore, voilà, qui est venue nous offrir quelques chansons, puisque Aurore, ça devient concret. Et je crois que pour toi, voilà, la musique, on le sait depuis longtemps, parce que t'as participé à une célèbre émission de Télécrochet déjà, mais il y a longtemps que t'as envie de sortir ton album quand même.
Mais oui, mais ça devient concret et c'est flippant parce que c'est la première fois que je monte sur scène en étant moi-même et pas derrière un personnage, mais c'est extrêmement excitant.
Vous vous rendez compte de la popularité que vous avez auprès des gens? Parce que moi, j'ai vu les gens quand t'as annoncé la première partie, que les gens ont vu Aurore arriver sur scène, mais c'était la surprise et puis le bonheur pour tout le monde. Et ça a fait autant plaisir, justement, cette surprise-là de te voir arriver. Vous comprenez cette popularité, tous les deux, mine de rien, que vous a amené Un si grand soleil d'un côté ou Demain nous appartient de l'autre?
On la voit, on la ressent de plus en plus, j'ai l'impression. C'est drôle parce qu'on a chacun, on est chacun sur une série, sur une chaîne différente et on est très souvent tous les deux et souvent dans la rue, on nous arrête tous les deux et ils font « Oh !» Mais, oh, ouais, et c'est un côté et l'autre, ils sont ensemble, c'est...
Un crossover en préparation.
Ouais, c'est presque ça, mais maintenant, c'est comme si les gens nous connaissaient et on fait partie de leur vie et ils savent que c'est Aurore et Kevin ou Bruno et Johanna. Et y a quelque chose d'hyper touchant et qui est hyper agréable parce que c'est toujours bienveillant et c'est vrai qu'on comme ça quand on va marcher dans la rue, on se dit pas tiens d'un coup il y a quelqu'un qui nous appelle ou qui fait oh incroyable et là on se dit ah mais oui en fait on oublie qu'on est dans la télé des gens tous les soirs et c'est assez fou hein, à vivre.
Tu passes de bons moments avec Constantin, parce qu'il paraît pas comme ça sur le tournage, mais Yann, c'est un sacré bout en train, ouais. Quand même, hein, Constantin qui joue le rôle de Yann. Et un duo qui est assez complice, en tout cas, à l'écran. Et dans la vie aussi, j'ai l'impression, parce que je me souviens d'une belle interview qu'on a fait il y a quelques mois au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, c'était pas mal.
C'est génial, on s'éclate, hein Kevin.
Ils sont très proches.
Tout le spectacle maintenant.
Ouais, c'est ça.
Merci, non, c'est horrible. Non, c'est génial, ce Constantin. On a, d'ailleurs, on avait fait la route pour venir au Festival de La Rochelle avec Constantin, ouais, Kevin et Constantin et moi, et on a ri pendant 6h30 de route, parce que Constantin est aussi un bout en train, on peut le dire. Je l'adore vraiment, et je prends un plaisir monstrueux à jouer avec lui, parce qu'on, y a pas de, en fait, on se pose pas de questions et on a envie tous les deux d'être bien et de donner tout ce qu'on peut. Enfin, c'est hyper fluide et on est en adéquation. Et ça, c'est beau, parce que quand on fait une série comme ça, on se voit très souvent, tous les jours, on doit faire quelque chose de continu sur du long terme. C'est pas négligeable d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend bien et avec qui on se pose pas de questions. Ça avance, quoi.
Et il a énormément de talent.
Ah oui, c'est un super comédien.
Alors la musique, concrètement, parce que ça y est.
Ça y est, concrètement, c'est sorti, ça y est, c'est sur toutes les plateformes. Le titre s'appelle Résonne, donc c'est mon tout premier titre vraiment de... J'en suis fière, j'ai mis de mon cœur, je me sens en adéquation avec cette chanson et ce style musical que je ne pourrais définir.
En plus, ça tombe bien, parce que tu nous l'as ramené, on va le faire découvrir à nos auditeurs, on va leur faire ce cadeau d'ici quelques instants. En tout cas, Aurore, il y a un album en préparation ?
Il y a un EP en préparation.
C'est déjà bien, c'est la première marche.
C'est la première marche et c'est un gros travail déjà.
T'écris tout, tu composes tout, tu fais tout toi-même sur tes musiques ?
En grande partie, oui. Ensuite, je suis très bien accompagnée par Damien Chicot, il s'appelle. Je trouve qu'on fait de belles choses.
Au niveau influence, il y a des artistes aujourd'hui qui t'ont influencé dans l'écriture, dans un peu la composition, avec qui tu rêverais de collaborer peut-être sur un duo dans le futur ou...
Oh là là, il y en a beaucoup. Là, pour ce qui est musical, j'étais partie sur du Lana Del Rey. J'aime beaucoup Lana Del Rey. C'est un peu planant et il y a du texte aussi. Même si c'est anglais, c'est jamais le même texte qu'en français. Hein. C'est pas aussi profond. Et... je sais pas, après j'ai envie de dire Charlotte Cardin, mais c'est pas du tout le même style, mais je suis une grande fan de Charlotte Cardin.
T'es deux chanteuses en tout cas qui t'influencent.
Beaucoup.
Ouais. Alors, le titre on va le découvrir dans un instant, mais aujourd'hui justement on est début février, et je profite de vous avoir tous les deux parce qu'on va fêter un anniversaire quand même aujourd'hui. Il y a un an, vous étiez en train de vivre un moment absolument incroyable sur la scène d'un festival, aux côtés d'un des plus grands maîtres du cinéma français et international, monsieur Jean-Jacques Hano. On y était, nous. Et je me souviens encore de votre émotion à tous les deux. Un an après, vous en gardez quoi ?
Un moment suspendu, non ?
Oh oui, c'était un moment unique, on ne sait pas.
Tu savais plus où te mettre, toi, Kevin. Non.
J'avais peur de faire des pains au piano. Ils regardaient mes mains en train de jouer. En même temps, on chantait en duo. Il y avait des armes, il y avait des trucs. Mais c'était un grand moment. Et en fait, il y avait une jolie pression. Et puis, il avait un regard bienveillant, oui, sur nous. Et c'était très, très riche en émotions et surtout en expérience. Donc, merci pour ce moment. Merci à Christian Cap de nous avoir invités à faire cette surprise à Monsieur Jean-Jacques Hano. Et on est très heureux de l'avoir vécu. Et c'était une belle expérience et avec beaucoup d'émotions. En tout cas, de notre part, on a essayé de le transmettre. J'espère que c'est passé, mais je crois apparemment. Donc, on est très heureux.
Tu vois, un an après, on s'en souvient encore.
Kevin a tout dit. Hein. C'était un moment hors du temps qui était assez magique. Assez magique, on avait l'impression, enfin en tout cas moi j'avais l'impression d'être dans le public, je sais pas, et de regarder ce moment et de dire mais il est improbable ce moment, mais qui
j'avais acheté un costume pour être bien habillé parce que
on va chanter pour Jean-Jacques Hano,
ouais,
en fait.
Non, donc il fallait que j'aie un beau costume bleu marine, j'avais acheté un beau costume bleu marine que j'avais eu en solde, j'étais très heureux.
Vous regarderez sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook Chute en écoute la télé, vous cherchez l'album Festival de Luchon 2023 et vous aurez toutes les photos de ce moment, voilà, vous pourrez revoir en tout cas. On va écouter Résonne, ton premier titre, Aurore. Merci infiniment à tous les deux. Cocu, c'est partout en France, Kevin Lévy en spectacle. Ça passe près de chez vous, j'en suis sûr. En tout cas, ça sera le 14 mars à Toulouse. Ça sera le 15 mars également du côté de Limoges et un peu partout en France. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller vous rendre sur Billets Réduits, sur tous les sites de réservation en ligne. Vous trouverez toutes les dates.
Et avant de partir avec Aurore, on a un duo qui va sortir incessamment sous peu. On espère avant cet été. La chanson s'appelle « C'est notre histoire d'humour ».
Absolument.
Vous m'enverrez ça ?
Ah bah, oui, avec plaisir.
Bien sûr qu'on va envoyer ça. On est très fiers de cette chanson.
Ouais, très.
Bon, pour l'instant, ça s'appelle Résonne. En tout cas, ça vient de sortir sur toutes les plateformes de téléchargement. Aurore des places, Kevin Lévy étaient nos invités. Merci à tous les deux.
Merci du fond du cœur.
Pris au piège par notre propre chair, réussirons-nous à dompter l'inoubliable ? Nos corps à cœur éphémères sont devenus incontrôlables et je me perds. Comment me passer de toi, de ta peau qui m'est si chère, et renoncer à l'ivresse de nos ébats, alors que les coups de tes soupirs résonne encore.
Prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Deux coups de cœur ciné. Le premier consacré à Madame de Sévigné. Isabelle Brocard, la réalisatrice, sera avec nous. Et nous aurons l'immense honneur de recevoir Karine Viard et Anna Girardeau. Et puis, on va parler également de Tomber du camion. Ça sera notre deuxième coup de cœur ciné avec Philippe Paulet-Villard, qui sera accompagné de Valérie Bonneton et Sébastien Chassagne.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
partager un moment convivial et chaleureux en écoutant Chut, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.